I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard Affût. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr mon acolyte, l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph et bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore de m'accueillir pour cette belle émission Poulain Rafute. Vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro ou ailleurs. Il paraît même qu'il y a certains arbitres qui l'écoutent dans leur vestiaire avant les matchs. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité spécial, puisque aujourd'hui il est au sifflet, même si c'est toi qui vas diriger les débats.
Non, c'est toi qui dirige. Oui, Arnaud. Notre rugby évolue et se révolutionne d'année en année pour apporter à la société une voix différente et inspirante. Ces valeurs, souvent mises en avant, sont essentielles au bon fonctionnement d'une rencontre et tout rugbyman et tout rugbywoman se doit de les respecter. Être au soutien, combattre l'adversaire dans le respect de son intégrité physique et morale, avancer ensemble, s'oublier, fusionner dans un collectif pour son bon fonctionnement, l'une des valeurs cardinales de notre cher sport, c'est le respect. Respect de ses coéquipiers, respect de l'adversaire, respect réciproque des supporters et bien sûr, respect du corps arbitral. Nous avons eu la chance en France, et nous avons la chance, pardon, d'avoir en France d'excellents arbitres et nous avons eu la chance d'avoir dans Poulain Rafute et d'en recevoir quelques-uns. Aujourd'hui, c'est le meilleur arbitre français de ces 10 dernières années que nous avons l'honneur d'avoir dans Poulain Rafute. Romain Poite, en quelques chiffres, mesdames et messieurs, sur les 10 dernières années au plus haut niveau, c'est 6 fois élu meilleur arbitre français, c'est 3 Coupes du Monde, c'est une pluie de matchs internationaux allant des 6 nations au match des Lions Britanniques en passant par la Challenge Cup et la Coupe d'Europe. Romain Poite, c'est une gueule, un accent et au-delà d'un coup de sifflet, c'est un homme intègre, comme tous les arbitres, on peut le dire. Parce qu'il en faut de la justesse et de l'entièreté pour se faire respecter chaque week-end sur les terrains de top 14, parce qu'il faut y être juste et prendre la bonne décision en un quart de seconde pendant 80 minutes quand tu te sens épié par 30 bonhommes et des milliers de supporters dans les tribunes et face à leur télé. Parce que la moindre erreur peut te coûter un flot de remarques parfois excessives de la part des réseaux sociaux, des managers, des présidents qui, eux aussi, mouillent la chemise, chaque week-end. Parce qu'il est l'homme à respecter quoi qu'il t'en coûte quand tu es joueur et qu'il est le garant d'un jeu à la fois cadré et fluide. Nous voulions savoir comment Romain avait vécu sa carrière internationale et comment il vivait ses derniers moments en tant qu'arbitre de notre cher top 14. Merci Romain d'être dans Poulain Rafute. Salut.
Salut et surtout merci à vous de m'accueillir et encore plus pour la présentation. Je ne sais pas si elle est méritée, mais en tout cas, elle est très appréciée. Merci Raphaël.
Romain, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Tu as arbitré ton dernier match international. C'était la rencontre entre l'Écosse et l'Australie. Avant de rentrer un petit peu dans les raisons qui t'ont amené à siffler la fin de ta carrière internationale, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton émotion? Un match à Murrayfield, c'est toujours un peu particulier. Évidemment, le Flower of Scotland à Capella, qui est toujours assez magnifique. C'est une atmosphère particulière. Et puis, c'était ton dernier. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'émotion qui t'a envahi ce jour-là?
Bien évidemment, au-delà du fait qu'on essaie toujours de finir proprement sa carrière et de rendre la meilleure copie possible, il y avait un enjeu particulier pour moi, c'est le côté émotionnel, donc à maîtriser. Et c'était vraiment le leitmotiv que je voulais conduire toute la semaine et même lors de l'événement, parce que c'est quand même une des particularités de notre métier, c'est d'arriver à maîtriser ses émotions et à les écarter pour être le plus juste possible technique. Et moi, simplement, le vœu d'écarter mes émotions pour pouvoir bien profiter du moment, techniquement, mais aussi humainement, avec toute l'équipe qui m'a accompagné, et pas tomber sur l'effet réducteur de l'émotion et perdre pied dans une rencontre qui méritait quand même d'avoir un bon arbitrage. Je ne sais pas si, et je ne vais pas le qualifier de bon, mais en tout cas, j'ai donné le meilleur de moi-même et surtout, j'ai profité, j'ai entendu des émotions que j'avais même jamais entendues. Donc voilà, un très bon moment à vivre.
On a vu notamment le capitaine australien Michael Hooper qui est venu prendre un bel hommage dans ton vestiaire avec un petit cadeau, un didgeridoo si j'en crois les images que j'ai pu visionner. Est-ce que finalement, ce n'est pas le plus bel hommage quand un joueur de cette trempe, un capitaine d'une telle nation vient te rendre un hommage comme celui-ci? J'imagine que si ça avait été d'autres nations, il y aurait peut-être eu aussi d'autres hommages. Et je sais que certains joueurs l'ont fait également sur les réseaux sociaux. J'imagine que c'est peut-être la plus belle reconnaissance, non Romain?
Évidemment, ça fait partie des choses qu'on apprécie énormément et à la fois très surprenantes parce qu'on ne s'imagine pas. Moi, jusqu'au vendredi matin de l'annonce de World Rugby, je n'imaginais pas la notoriété que je pouvais avoir et la trace que j'ai pu laisser. Parce que bon, c'est vrai que quand on lit les réseaux sociaux, bon, moi, je ne les lis pas trop, mais on nous les rapporte. Hein, on ne fait pas partie des gens les plus populaires. Donc, on est assez mis en danger assez souvent par rapport à l'intégrité et l'homme qu'on est, alors que c'est complètement faux. Mais non, ça a fait partie, bien évidemment, des belles surprises. Très surpris aussi de l'ampleur des commentaires sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je ne suis que sur un seul réseau. Je ne vais pas en donner le nom, mais c'est un réseau professionnel plutôt, un réseau social professionnel. Et j'ai eu des marques de sympathie, mais complètement improbables. Et même de la part de personnes et de personnalités du rugby française qui m'ont fait énormément plaisir. Donc, comme je dis, je me suis... fait un point d'honneur à répondre à tout le monde. Je pense que j'ai répondu à tout le monde par rapport aux réseaux sociaux. Évidemment, je n'ai pas pu répondre, mais je tenais simplement à témoigner toute ma gratitude à ce peuple rugbystique qui a, ma foi, reconnu quelqu'un comme laissant une trace pas trop dégueulasse, si on peut dire.
Romain, s'il y avait un souvenir en particulier, je l'ai dit, hein, trois Coupes du Monde, tu as arbitré les Lions britanniques aussi, quel serait ton meilleur souvenir sur ces, on va dire 11-12 dernières années sur le plan international, parce que tu dois en avoir aussi avec des petites pépites à nous livrer sur le top 14, parce qu'après il y a eu quand même le Covid, donc l'arbitrage aussi a évolué avec le public derrière qui était inexistant pendant un an et demi, on en parlera. Mais sur le plan international, quel serait ton meilleur souvenir pour toi?
Il y en a de nombreux parce que vu la multiplication des matchs, vu les opportunités qu'il y avait, il y en a de nombreux. Bien évidemment qu'être sélectionné pour des Coupes du Monde, ça reste le Graal pour tout arbitre. Donc, des souvenirs très présents. La tournée des Lions encore plus parce que tant qu'on n'a pas été dedans, on ne mesure pas l'ampleur de l'événement puisqu'on est latin et que pour les Britanniques, c'est quelque chose d'assez sacralisé et un petit peu comme une Coupe du Monde puisque ça se répète que tous les 4 ans. Mais je vais être assez global, mais moi, c'est toutes les aventures humaines que j'ai eues avec les joueurs, les collègues arbitres aussi, parce que quand on part pour une Coupe du Monde, c'est 2 mois, on apprend à se découvrir, à partager un peu plus, à se découvrir les uns les autres, et puis à créer des liens. Et y a une phrase qui est assez magique et mythique, celle de Jean-Pierre Rive, mais c'est vrai que après, quand il n'y a plus le rugby, il restera des amitiés profondes et des relations profondes avec les personnes. Moi, le souvenir technique, enfin, le souvenir que j'ai le plus probant, c'est à la veille d'un coup d'envoi, le match le plus important que j'avais à diriger à la Coupe du Monde 2011, puisque j'étais novice, j'étais juste né dans le milieu international. Et je faisais Afrique du Sud-Fidji, qui avait été un match remarquable en quart de finale en 2007. Donc, je m'attendais à quelque chose d'assez exceptionnel. Et François Stein, qui était l'ouvreur à l'époque de l'Afrique du Sud, m'avait dit « Have fun, amuse-toi ». Et en fait, c'est vraiment la philosophie qu'il faut garder et s'amuser, s'éclater. Et puis, tout en ayant des obligations à remplir, des obligations professionnelles, mais en prenant part à l'événement, en profitant et en ayant du plaisir à le faire. Et c'est peut-être aussi la fin de l'Écosse-Australie qui m'a fait prendre conscience de tout ça. C'est arriver à capter des choses qu'on ne capte pas tellement on est concentré sur les autres matchs. Et pouvoir en profiter, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
Mais être arbitre, c'est quand même un métier à part. Comme tu l'as dit, il faut se couper de ses émotions. Enfin, il ne faut pas prendre parti. C'est quand même nous, on a cette image en tant que joueur, enfin, les souvenirs. Ça représente l'autorité. On est latin, comme tu le disais. Donc, arriver à gérer 30 mecs plus, comme tu l'as dit, il y a les réseaux sociaux, il y a les managers sur le bord du terrain, il y a les présidents, enfin tout le monde peut prendre parti. Je me demande comment on gère en tant que qu'être humain, et ça va au-delà du poste, mais comme tu le dis, au niveau des émotions, au niveau de tout ce qu'on peut vivre, de représenter l'autorité, surtout pour nous Français, comment on le vit? Comment on le vit en tant qu'homme? Ça fait plaisir de t'entendre parler d'aventure humaine, parce qu'on se rend, enfin, on a l'impression que vous arrivez, vous posez là, et après vous repartez, et que la vie, elle est hyper cadrée, que c'est l'image qu'on... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est l'image que je me fais de l'arbitre, quelqu'un qui est hyper cadré, qui ressent rien, qui est pendant 80 minutes, mais... Je n'ai pas de questions, en fait. Je trouve ça assez génial, justement, que tu nous livres un petit peu avec émotion tes souvenirs, parce qu'on a tendance à caricaturer un petit peu les gens, et ça fait du bien de t'entendre. Voilà, c'est tout. Arnaud, prends le lead là-dessus. Parce que
pour résumer la question de Raph qui durait 3 minutes, en gros, c'est comment on fait quand on, quand on est un être humain pour rester froid?
Alors déjà, il faut avoir ramassé comme moi, parce que moi, j'ai cumulé. J'étais policier avant, donc je me suis dirigé vers l'arbitrage. Donc, des formations professionnelles, non, de plaisanterie. Mais non, moi, je suis rentré dans la police pour apporter la justice, parce que j'aime pas les choses qui sont pas acceptables, etc. Et quelque part, peut-être que je me suis tourné vers l'arbitrage aussi parce que j'avais cette fibre-là, mais la justice, c'est quelque chose que je trouve. Alors malheureusement, j'ai été injuste aussi quand j'ai arbitré parce que j'ai commis des erreurs, mais la justice, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Après, il faut voir l'arbitre comme un passionné, qui vit la passion d'une manière différente, qui n'est pas acteur du jeu. Moi, j'étais très lucide sur ma qualité de joueur. J'aurais peut-être fait un bon joueur de Fédéral 2. J'avais eu la chance d'être sélectionné en cadet, en junior à l'époque, et de partager des stages ou des rencontres avec des joueurs qui ont fait leur renommée après, comme Thomas Castagneda. Enfin, moi, je suis de cette génération-là. Mais c'est simplement quelqu'un qui prend un sifflet, qui a déjà le courage de le prendre, ensuite qui va sur un terrain pour vivre une passion, certes de façon différente qu'un joueur, mais qui est là pour pratiquer du rugby. Et on le pratique d'une façon différente par rapport à l'autorité et l'adversité, mais c'est uniquement le plaisir d'être sur le carré vert et puis d'être le premier spectateur d'une rencontre. Donc, alors ça, c'est sûr que ça ne se mûrit pas dès les premiers pas sur un terrain en tant qu'arbitre et par rapport au sifflet, mais ça se nourrit petit à petit avec la carrière, et puis on mesure le privilège d'être le premier spectateur, de ne pas conduire le jeu, parce que contrairement à ce que les gens veulent croire ou peuvent croire, on n'est pas là pour s'identifier, on n'est pas là pour se mettre en scène, on est là pour accompagner. Et un arbitre, dès lors qu'il sort du terrain sans qu'on ait parlé de lui, c'est là qu'il a gagné sa performance et sa prestation. Alors, donc, on a juste envie de partager des moments sportifs, et peut-être parce qu'on n'en a pas aussi la capacité par un autre biais comme le jeu. Peut-être aussi que c'est une volonté d'être arbitre, puisque maintenant, aujourd'hui, on vient à l'arbitrage de plus en plus jeune. Et le professionnalisme qu'ont eu mes collègues et dont moi j'ai bénéficié aussi a certainement suscité des vocations par rapport à ça. Mais il faut garder la mesure des choses et puis se dire que c'est simplement une opportunité de pratiquer le rugby et de façon différente. Après, il y a toujours le critère de l'adversité parce que le rapport à l'autorité pour nous latins, il est quand même quelque chose de complexe. Et alors, sans faire de fausse publicité, mais c'est vrai qu'on assume un rôle qui peut parfois être difficile à conduire ou difficile à supporter, mais on vient sur un terrain pour donner le meilleur de nous-mêmes, prendre part à ce beau sport et puis vivre notre passion comme les autres.
Alors, tu as vu elle sera beaucoup plus courte, rassure-toi, Arnaud, la question. Tu as vu évoluer le rugby depuis 20 ans maintenant. Moi, ma question, c'est qu'il y a eu l'arrivée aussi des réseaux sociaux. On a vu des arbitres, vulgairement, en prendre plein la gueule. Comment on le vit aussi, ce rapport à la médiatisation? Maintenant, vous apparaissez de plus en plus aussi sur les grands écrans. Comment on vit cette image aussi, et notamment les critiques qui peuvent arriver? J'imagine que ça se au fur et à mesure, on les digère plus facilement. Mais comment on le vit, ça?
Ben déjà, à partir du moment où on se met en scène et où on devient un homme public, il faut accepter la critique et être jugé par n'importe qui. Vouloir plaire à tout le monde, c'est aussi vouloir plaire à n'importe qui, donc peu importe le jugement, mais il faut accepter cette condition-là, et parce que alors on passe pas à la télé avec plaisir, mais bien sûr que ça fait plaisir d'être sur les meilleures rencontres et forcément de passer à la télé, donc enfin c'est pas le vecteur qui nous conduit, mais c'est une chose qu'il faut intégrer. Après, ben, je le disais, on accepte ce rôle simplement parce que c'est quelque chose qui fait partie de la fonction. Et à partir du moment où on a accepté tout ça, ben, on le vit forcément bien. Évidemment que des ambiances chaudes, des ambiances de stade à 80 000 personnes, hein, c'est excitant. Mais on est tellement fermé sur l'objectif et de la performance qu'on a du mal à les entendre. Et ce que je disais par rapport à tout à l'heure, le fait de vivre un événement particulier comme j'ai vécu mon dernier match international, j'ai saisi des moments que j'aurais jamais saisi avant et qui avaient eu certainement, qui avaient pris leur place dans notre rencontre. Donc on sait aussi qu'on n'est pas populaire, on ne vient pas pour être populaire, donc on repartira impopulaire et à la limite, on n'aura rien gagné, rien perdu. Donc voilà, restez centré sur le côté technique. Après, c'est très consensuel ce que je vous dis, mais c'est vraiment notre réalité, quoi. On ne passe pas à la télé. Le biais vidéo, il vient à nous naturellement parce que comme il vient aux joueurs naturellement, donc on l'accepte. Il faut l'assumer et puis pas surjouer, évidemment. Pas surjouer la communication, pas surjouer l'image, et puis être sélectif. Après, pour les réseaux sociaux, moi, j'ai fait le choix de ne pas y être. Je dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis sur un seul réseau social qui est plutôt professionnel. Donc voilà, je me garde bien de lire certaines choses. Mais je vous rassure, il y a toujours des gens pour m'appeler et me rapporter les choses. Non, ce qu'il y a, pour les réseaux sociaux, ce qui m'a fait le plus mal, c'était après ma décision en 2013 qui était erronée d'avoir sorti définitivement Bismarck Dupessis sur Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Il y a eu ma fille aînée qui était sur les réseaux sociaux puisque c'était la naissance de Facebook à l'époque. Enfin, naissance peut-être même avant. Mais voilà, elle avait été heurtée par ce qui pouvait être dit et je lui avais expliqué, mais comme ce que je viens de vous dire, c'est qu'à partir du moment où on se met en scène, il faut accepter d'être jugé par tout le monde. Après, il y a des formes, bien évidemment, mais on sait faire aussi la part des choses en tant qu'être humain.
On va y revenir un peu plus tard justement à cet épisode, Romain. Moi, j'aimerais qu'on revienne, Romain, rapidement sur la fin de cette carrière internationale. C'est World Rugby hein, qui a annoncé dans un timing assez surprenant quand même à la veille du match entre l'Écosse et l'Australie, ta retraite internationale. D'abord, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait toi-même? Ça, c'est une première question. Et ensuite, tu as déclaré dans Midi Olympique que si tu avais pu continuer, tu l'aurais fait avec grand plaisir. Est-ce que tu regrettes finalement cette règle avec cette limite d'âge qui t'empêche de poursuivre cette aventure?
Alors, pour répondre à l'ensemble de la question, la première chose, c'est que j'ai été averti au mois de juin que ma carrière internationale s'achèverait au mois de novembre avec une désignation. Donc, j'avais eu le temps de le digérer et on m'avait demandé quelle communication je voulais appliquer à cette sortie-là parce qu'ils voulaient que ça soit fait en grande pompe et tout. J'ai dit, écoutez, moi, je suis de passage dans le système, donc vous faites la communication que vous voulez, ça ne m'intéresse pas et je vous laisse mettre. Donc, le vendredi matin, quand je partais à l'aéroport, ça a commencé à sonner pas mal. Et ça m'a même surpris. Donc, je pensais même qu'il n'y aurait aucune communication. Donc, voilà. Après, ce qui m'a gêné, c'est qu'à l'issue de 2019, on a des retours, des entretiens avec le staff World Rugby. Mais je ne veux pas cracher sur l'institution. Voilà, je leur avais tout simplement notifié qu'en 2020, je passais l'âge de 45 ans et que c'était réducteur par rapport à ma projection de carrière vis-à-vis de la France. Donc, simplement de savoir ce qu'ils voulaient faire de moi. Il y a eu des annonces qui ont été faites et ce n'est pas les annonces qui ont correspondu aux faits puisqu'on m'a demandé de m'arrêter avant la date qu'on avait échangée, à condition de remplir les cases quoi, par rapport aux performances, etc. Donc après, c'est un choix. C'est un choix que j'accepte parce que c'est aussi la loi du sport et il faut l'accepter. Moi, quand je suis arrivé, j'ai poussé des anciens vers la sortie. Donc, c'est le juste retour des choses et qu'on me pousse vers la sortie. Dans ma tête et dans mon corps, j'étais encore prêt pour faire quelques saisons de plus. Mais comme je dis, j'aime que les gens… s'accorde pas, mais accepte mes décisions sur le terrain. Donc, à moi aussi de faire valoir l'exemplarité et d'accepter la décision qui m'a été imposée. Ensuite, pour revenir sur l'âge limite français, mais c'est une règle qui a été dictée il y a quelque temps de ça par par une personnalité de l'arbitrage française. Une règle aussi qu'on doit accepter, même si on se dit qu'à 45 ans, on court plus qu'à 20 ans, et ça c'était mon cas, et qu'on a encore envie, et que l'expérience fait qu'on entretient de bonnes relations avec tout le monde, ça ne garantit pas les meilleures performances. Mais voilà, aujourd'hui, on vient à l'arbitrage beaucoup plus jeune qu'avant, même si moi, j'y suis arrivé très tôt. Mais c'est une génération qui arrive à 25 ans maintenant dans le secteur professionnel. Et je leur souhaite, mais c'est très dur de faire des carrières aussi longues à ce niveau-là par rapport à la répétition des voyages, à l'exposition aux blessures, etc. Donc, c'est quelque chose que je peux comprendre. Alors après, j'ai mon avis dessus, bien évidemment, c'est un avis personnel. Mais voilà, comme je vous dis, la règle, elle vaut pour tout le monde. Donc, à moi de la respecter comme j'aime qu'on respecte les miennes.
Raph, je te sens bouillir. Romain, on ne va pas te poser la question, mais est-ce que ce n'est pas complètement… Alors, j'avais marqué ubuesque sur ma feuille, mais est-ce que ce n'est pas complètement débile, finalement, de se priver de la compétence et de l'expérience d'un arbitre international qui aurait pu, éventuellement, et ça aurait été la cerise sur le gâteau, arbitrer un mondial en France en 2023?
Mais oui, mais de toute façon, Romain, la règle, elle est faite pour être changée. Tu le sais bien, elle peut évoluer. Donc,
surtout au rugby.
Entendez-nous, mais surtout au rugby. Moi, j'ai arrêté à 25 ans. Une carrière d'un rugbyman, ça s'arrête… Enfin, elle s'arrête à 35 ans parce que le corps ne peut plus. Mais à 45 ans, enfin, tu as la forme, Romain, et ça se voit. Tu es mature dans ton boulot. Enfin, c'est dommage de se passer, en fait, sur le plan national et international, d'une personne comme toi, parce que les jeunes qui arrivent ont encore besoin, justement, de personnes comme toi. Tu te sens bien et on te demande d'arrêter un métier où tu es bon, où tu es performant, où tu es compétent. Donc, moi, je trouve ça absolument… Enfin, c'est hallucinant de devoir se passer du meilleur arbitre français. Et moi, alors, à la différence de toi, Romain, moi, j'aime beaucoup franchir la ligne blanche. Tu vois, d'où ma carrière qui a été très petite. Après, avec ce qu'on connaît d'elle maintenant. Mais merde, là, il faut faire passer un message. On ne peut pas. Je sais pas. Je trouve ça. Ouais, tu dis UBS, moi, je trouve ça complètement débile, en fait, de se passer d'une personne comme toi, parce qu'on en a besoin, parce que tu es le meilleur arbitre aujourd'hui en activité français.
La problématique, elle est peut-être aussi sur le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de pression sur les arbitres, on le voit, avec des changements de règles, on n'en parle même pas chaque année. Je pense que c'est le rugby est le seul sport où chaque année, on a des nouvelles réglementations qui sont pondues par les scientifiques de World Rugby. On met de plus en plus de responsabilités sur les arbitres. Et je pense que c'est une fonction aujourd'hui qui nécessite de l'expérience, de la compétence. Et que, alors, je rejoins Romain, effectivement, et c'est bien qu'on ait de plus en plus de jeunes qui viennent à l'arbitrage. Mais à 25 ans, on n'a probablement pas encore la capacité, la mesure pour arbitrer, le poids, l'épaisseur, tout ce que vous voulez, pour arbitrer un Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, qui peut compter pour un rugby championship, probablement. C'est là, probablement, que World Rugby se trompe, c'est mon avis. Je vois que Raph le partage. Romain, on ne va pas te mettre en porte-à-faux. Mais c'est vrai que de notre point de vue, il y a quand même quelque chose qui cloche dans ce fonctionnement.
Mais au-delà de ça, et juste pour conclure, en tout cas sur mon point de vue, on est dans une société où il ne faut pas vieillir. Or, on a besoin des anciens, quoi. Mais tu n'es pas encore ancien, c'est ça le problème, Romain. Tu es un ancien dans ton métier, oui, mais tu as 45 ans. Enfin,
Déjà, je voulais vous remercier pour tous ces bons propos et élogieux, mais personne n'est indispensable. Et sincèrement, on en parlait avec Mathieu Reynal, au-delà de notre amitié, c'est quand l'âge limite a été imposé, j'ai dit, mais c'est quand même bien aussi, Mathieu, parce que même si c'est douloureux pour moi aujourd'hui, j'ai dit, c'est quand même bien, Mathieu, parce que quand est-ce qu'on s'arrête? En fait,
après 2023.
Raphaël, oui, mais Raphaël, c'est que c'est pas comme les joueurs, c'est qu'à partir du moment où tu es installé, il y a beaucoup de clémence vis-à-vis de ton expérience, du rendu que tu as. Et après, c'est quand est-ce qu'on s'en va? Parce que, comme je dis, amicalement et sous le coup de la rigolade, mais c'est vrai que quand la gamelle est bonne, quand tu es habitué à manger du caviar, tu as envie de continuer à manger le caviar. Je ne dis pas que le pâté, c'est pas bon, mais c'est aussi simple que ça.
Et comme tout joueur, tout arbitre devrait pouvoir choisir sa sortie, quoi. Enfin, tu vas pas aller jusqu'à 55 piges, mais au moins de pouvoir choisir ta sortie. Là, elle t'est un peu imposée, ce qui fait que tu différencies un petit peu l'arbitre du joueur. Et vous faites partie du même microcosme.
Mais il n'y a rien qui nous appartient. Et pour juste finir sur ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un vivier de jeunes aujourd'hui, que ce soit en top 14, que ce soit en international, qui est en train d'arriver. Et ils ont besoin de prendre de l'expérience. Et si nous, on ne laisse pas cette place-là, ils n'apprendront jamais l'expérience. Parce qu'une fois que tu es assis, c'est comme un dinosaure, quoi. Tu ne vas pas le bouger comme ça. Donc voilà. Après, bien évidemment que j'abonde dans tout ce que vous dites. Bien évidemment que j'ai envie de rebondir dessus. Mais il faut aussi avoir la lucidité qu'à partir du moment où tu arrives à un certain âge, alors après, c'est réducteur juridiquement parce que par rapport aux lois européennes, c'est discriminatoire, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est quelque chose qui s'entend. Après moi, je préfère l'accepter. Je ne vais pas vous dire qu'à début juin, quand on m'a annoncé que c'était fini, je savais qu'après, bon, j'ai demandé à la fédération si ça s'appliquait la règle. On m'a dit que oui. Je ne vais pas vous dire que pendant 3 semaines, d'ailleurs, la blessure avant la finale, c'est moi, je suis quasiment persuadé que c'est une blessure de nerf nerveuse. Donc, j'ai ruminé. J'étais pas content. Il y avait toujours le questionnement de qu'est-ce que je vais faire après, l'inconnu, etc. Mais après, une fois que… Le mieux, c'est de l'accepter et puis de se projeter sur le présent et puis le futur et surtout se dire que le passé, finalement, on ne peut pas le changer. Combien de décisions j'aurais aimé changer après des matchs? Combien de décisions j'aimerais changer dans ma vie? Et on est tous pareils, mais on ne peut pas le faire. Donc, autant se servir des choses qui vont nous exciter un peu et nous apporter un peu plus de bonheur et de plaisir que de rester à ruminer des choses qui sont ou sur lesquelles on ne peut pas interagir.
Un petit dernier message. Comme tu as écouté les podcasts de Poulain Rafut sur tes collaborateurs, on va dire, ce podcast va être écouté par l'ensemble du corps arbitral français. Petit message personnel, finale de top 14, pour conclure, ce serait quand même assez magique. Voilà, le petit message est passé. Il n'est pas encore choisi, l'arbitre, je ne me plante pas ou,
Non, il est choisi tard dans la saison. Et écoute, ma foi… Que Dieu t'entende, si on peut dire. Si je s'appelle Franck Massiello ou Cartel ou Bernard Laporte. Non. Non, bien sûr que ça serait une fin, mais moi, d'abord, ça se gagne. Il y a encore pas mal de matchs à faire. Il y a de très belles compétences au sein de l'arbitrage français. Donc, bien évidemment, que j'aimerais amener tous les. Je le disais encore ce matin à Franck Massiello, on a eu un entretien. Bien évidemment que j'aimerais amener tous ceux qui m'ont fait briller parce qu'on n'existe pas tout seul, même si on attire tous les lauriers. Mais les arbitres assistants, les arbitres vidéo qui sont mes amis, les amener le plus haut possible. J'avais fait la promesse à une personne qui s'appelle Francis Deltorn, qui m'avait permis de revenir très vite dans ma région par rapport à mon métier initial. J'avais dit que j'essaierais de porter le drapeau midi-pyrénéen, puisqu'à l'époque, c'était le comité midi-pyrénéen. Le plus haut possible. Je l'ai amené sur une montagne quand même plus ou moins haute. Donc, j'aimerais amener mes camarades à visiter ce drapeau à la fin de la saison et que Dieu vous entende, comme on dit.
Ce serait super.
Romain, j'aimerais qu'on revienne aussi un petit peu sur tes débuts dans l'arbitrage. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venu cette idée? Parce que c'est quand même une idée qui peut paraître saugrenue pour un grand nombre de gamins. Je ne sais pas à quel âge tu as commencé l'arbitrage, mais j'ai lu que c'est ton papa qui t'avait poussé dans cette direction. Vrai ou faux?
Exactement. Et moi, je devais l'avoir depuis la naissance parce que flic, arbitre, je devais avoir un sifflet pas loin, je ne sais pas. Non, tout simplement, j'étais à 19 ans, je jouais à Grouillé en Crabos et mon père était impliqué dans une commission du comité qui n'était pas du tout une commission arbitrale parce que mon père n'a jamais fait d'arbitrage dans le rugby. Il a été joueur de rugby et puis il a vécu un petit peu une carrière à travers moi et j'en ai été très honoré et surtout très fier pour mon père. Et donc, il est venu me voir un jour, il me dit, écoute, ils ont besoin d'arbitre, est-ce que ça t'intéresserait d'être arbitre? Bon, je dis, je ne sais pas trop, il avait 19 ans. Il me dit, ben, deux choses, la première, c'est que ça t'est… On jouait le dimanche matin en Crabos à l'époque, il me dit, ça t'éviterait de passer tout ton samedi après-midi à picoler avec tes potes au bar avant les matchs. Et puis, accessoirement, ça te ferait fermer ta grande gueule parce que j'étais capitaine et j'étais un grand pénible. Donc voilà. Et puis, au-delà de tout ça, c'est quelque chose de très formateur. Moi, je le dis aux jeunes arbitres, avant qu'ils aient le choix à faire ou l'obligation de faire un choix, c'est formateur parce que quand on connaît la règle, on peut se développer. Et moi, je suis persuadé qu'un joueur qui maîtrise la règle peut rattraper un déficit technique ou physique par rapport à un autre. Et c'était le cas de Richie Mako, alors qu'il avait des dimensions athlétiques. Attention, je vais pas dire qu'il n'en avait pas. Mais il connaissait la règle, il connaissait l'arbitrage, il connaissait l'arbitre et il repoussait tout le monde dans des retranchements. Et c'est vrai que quand on avait compris et qu'on voulait porter le sifflet à la bouche, qu'on voyait le ballon au niveau du premier centre, parce que ça va très vite chez les Blacks, et ben on se disait que c'était trop tard pour siffler, donc il avait gagné. Mais je suis venu à l'arbitrage grâce à mon père, pas à cause de mon père, parce que j'ai fait une carrière que je n'aurais jamais fait en tant que joueur, grâce à lui. Et puis voilà, donc c'était un pur hasard. Et puis après, on se prend au jeu, parce que quand je suis rentré à l'école de police, on nous avait fait gentiment comprendre que si on se pétait en dehors du sport à l'école, on mettait en danger notre scolarité et notre profession, future profession. Donc voilà, je me suis dirigé vers l'arbitrage sans me poser de questions, en prenant du plaisir, en vivant, comme je disais tout à l'heure, une passion. Et puis les choses sont venues petit à petit, et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc plus on s'est levé dans la hiérarchie, et bien, plus on avait envie de croquer la part du gâteau.
Juste une petite question, mais qui est complètement hors de propos, qui n'était pas prévue, mais là tu viens de parler des All Blacks. Moi j'aimerais avoir ton point de vue en tant que supporter français, en tant qu'arbitre aussi, sur ce match de 2011. On en a beaucoup parlé au niveau de l'arbitrage. Non, alors je sais, ce n'est pas une question piège et tu peux complètement botter, sans déconner, il n'y a pas de... Mais en tant que supporter français, là, c'était aussi le développement des réseaux sociaux. Il y a eu des vidéos qui ont tourné sur toutes les décisions qui ont été prises par cet arbitre international. Toi qui as vécu ça, comment
tu... Joubert, hein, pour ne pas le nommer.
Je ne voulais pas le nommer.
Alors, c'est fait.
Alors.
Non, parce que j'ai mon avis, mais je me garderai bien de le donner.
Ranger les tronçonneuses, il n'y aura rien de sanglant, je vous avertis. Non. Bon, déjà, la première chose, en 2011, même si je découvre le niveau, il fallait reconnaître la qualité d'arbitre qu'avait Craig Joubert. Sur les deux dernières années, c'était vraiment un extraterrestre, c'était vraiment le meilleur arbitre. Après, reparler de la finale de 2011, faut savoir que quand on revient dans les pays, on fait des petites conférences. Je suis en 2012, c'était 2012. Je reviens en Nouvelle-Zélande et on fait une petite conférence. Et là, gros malaise dans la salle, il y a un mec qui se lève et il me dit: Romain, qu'est-ce que tu as pensé de l'arbitrage de la finale de la Coupe du Monde 2011? Donc évidemment, un Néo-Zélandais qui me pose la question avec d'autres arbitres. Et gros malaise dans la salle. Et j'ai dit: écoutez, moi, à partir du moment où j'étais dans les tribunes, avec un maillot bleu, blanc, rouge, où je supportais et j'avais un parti pris pour l'équipe de France, mais je ne parle plus d'arbitrage parce que je n'ai plus d'objectivité à en parler. Et ce n'est pas un problème pour le spectateur, c'est un état de fait, c'est tout. Et donc, moi, je parle. Alors, bien évidemment que je me suis posé des questions, bien évidemment que je me suis dit comment ça se fait qu'en deuxième mi-temps, sur 40 minutes, la meilleure pénalité qu'on ait à tenter, c'est 45 ou 50 mètres, je crois, si mes souvenirs sont bons. Après, je n'ai pas eu la précision et je n'ai pas voulu revoir le match avec précision de la vidéo. Mais voilà, et dans les tribunes, à partir du moment où j'ai un parti pris, où je suis supporter, je ne parle plus d'arbitrage parce que qui mieux que moi peut savoir que ce n'est pas objectif. Donc voilà. Après, bien évidemment que j'étais déçu. Et la deuxième chose que j'ai dit, peut-être de la lucidité ou pas, j'ai dit: est-ce que vous pensez qu'en ayant joué une compétition comme celle-là, en jouant bien 1h20, parce qu'on joue 20 minutes de très bonne contre les Anglais, les 20 premières minutes en quart de finale, et qu'on joue 1h de très bonne sur la finale, on peut mériter le trophée? Et j'ai jamais apporté de réponse à ça, donc j'ai juste posé une question. Et puis entre le fait d'avoir un parti pris qui altère forcément le jugement et cette question-là, je me suis dit, je ne réponds pas. Donc j'ai botté en touche.
Alors, on va parler un peu d'actualité. On va revenir 10 ans plus tard après cette finale de 2011. Romain, on a parlé de ton arrivée, entre guillemets, en tant qu'intervenant, je précise, non pas en tant que consultant, dans les prochains jours, je crois, dès ce mercredi, au Stade français qui est en proie à de graves, graves difficultés sur la discipline. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'il en est? Si on a bien compris, tu vas intervenir à 2 ou 3 reprises dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour accompagner le Stade français avec l'accord du DNA qui est Franck Massiello. Si je ne me trompe pas, du coup, tu n'arbitreras plus le Stade français non plus jusqu'à la fin de la saison, si j'ai bien compris. Et tout ça, voilà, on aimerait avoir une clarification, Romain, par rapport à tout ça.
Ce serait con qu'il soit en finale, quand même, le Stade français. Moi, c'est mal barré.
Il y a plus de chances de voir Romain Pointe en finale que le Stade français pour l'instant. Hein.
Bon, en tout cas, merci Arnaud et Raphaël de nous permettre de remettre l'église au centre du village, comme on dit, en tout cas d'apporter des précisions, parce que bien évidemment qu'on a compris l'emballement médiatique du fait de ma position, parce que contrairement à Alexandre ou d'autres, moi, ma carrière s'achève et tout le monde a des supputations sur mon avenir et que c'est un axe de reconversion que je néglige pas, et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Après, ça se fait souvent en France, plus souvent en début de saison où les clubs demandent l'intervention d'un arbitre pour prêcher la bonne parole, apporter notamment, comme tu l'as dit, les directives et les changements de règles, les précisions nécessaires pour que les joueurs puissent évoluer dans les meilleures conditions. Et ça se fait en cours de saison. Donc, il y a des arbitres du secteur professionnel qui interviennent dans des clubs professionnels. Donc, le cheminement est très simple. Le club fait une demande à Franck Massiello, le DNA, qui abonde ou pas dans cette demande-là. Et on diligente un arbitre. Il y a des arbitres chez nous qui travaillent avec des équipes pas sur une durée aussi rapprochée, mais qui parce que tout simplement la relation s'est établie, la confiance s'est établie, tout le monde y trouve son compte, l'entraîneur aime revoir le même arbitre parce qu'il y a une continuité dans le message, il y a aussi un environnement qu'on appréhende plus facilement parce qu'on connaît comment travaille le club et évolue le club. Donc tout simplement par rapport à ça et la demande du Stade français qui m'était adressée, ils ont demandé à avoir quelqu'un sur la durée et sur la répétition sur les semaines à venir. Et ils ont demandé, en l'occurrence, moi, puisque bon, par rapport à toutes les circonstances, en plus, bon, je les ai arbitrés 3 fois cette année, ils ont perdu 2 fois. Enfin, bon, il n'y a aucune suspicion qui peut se mettre en place. Donc voilà, Thomas Lombard a fait la demande à Franck. Et puis après, on m'a demandé si ça me posait de problème. Moi, j'ai dit aucun problème, puisque on préfère prévenir que guérir, se rendre dans les clubs pour sortir du contexte, sortir du parti pris, parce que même nous, on a des partis pris quand on arbitre les équipes et on ne peut pas faire d'éducatif. Donc là, c'est l'opportunité pour nous de nous nourrir un petit peu plus des pratiques des équipes qui nous font progresser aussi. Et moi, j'ai besoin de progresser même jusqu'au 30 juin 2022, parce que la perfection, même si on essaie de l'atteindre, on ne peut pas l'atteindre. Donc j'essaie simplement de me nourrir et de ces outils-là. Et évidemment, pour les clubs, leur apporter un œil externe et peut-être un message qui est plus facile à faire passer quand on n'est pas dans le quotidien du club. Et voilà, et travailler sur la discipline. Mais c'est quelque chose d'encadré. Et je suis toujours sous contrat de la FFR avec beaucoup d'honneur et de reconnaissance, parce que ça fait quand même 15 ans que je suis sous contrat avec la FFR. Donc voilà, donc après, c'est vrai que le terme consultant est plus approprié que membre d'un staff. Je ne suis pas membre du staff du Stade français. Moi, j'y vais pour les faire progresser à eux, comme j'aurais pu aller dans un autre club de top 14, voire de Pro D2. Comme je vais dans mon club d'honneur, moi, mon petit club d'honneur Muret, eh bien, j'interviens toujours. Je suis toujours à disposition de mon club quand ils ont besoin de moi pour travailler des techniques ou travailler la règle. Donc là, je le ferai avec beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de plaisir et sans parti pris et surtout permettre à mes collègues le samedi d'être aussi dans de bonnes conditions, parce que l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est de faire progresser l'équipe par rapport au niveau de discipline. Mais forcément, s'il y a moins de pénalités à siffler, il y aura forcément plus de jeux et plus de plaisir pour mes collègues qui seront sur le terrain. Comme moi, je pourrais récolter les lauriers d'intervention de mes collègues au préalable des clubs que j'ai dirigés. Et donc, ça pose aucun problème d'éthique. Après, pour les supporters, bien sûr qu'il va y avoir une certaine suspicion ou quoi que ce soit. Et tout simplement pour éteindre cette suspicion, pendant la durée avec laquelle je vais travailler avec le Stade français, on trouve plus intelligent pour les deux parties, que ce soit le Stade français ou moi, que je ne les arbitre plus. Et puis voilà.
Jusqu'à la fin de la saison, pour être très clair, la décision pour l'instant, c'est juste le temps de la collaboration.
La durée, j'imagine que si le Stade français élève son niveau de discipline, retrouve et puisse s'orienter sur le jeu, qui est quand même la valeur essentielle et la valeur ajoutée de notre sport, j'imagine que peut-être ils auront plus besoin de moi, quoi. Donc voilà, après, on ne tire pas des plans sur la comète jusqu'à la fin de la saison. On verra comment ça va évoluer. Et puis, ma foi, si chacun y trouve son compte, ça sera d'autant mieux parce que ça sera gagnant-gagnant.
Alors justement, Romain, puisqu'on avait eu la chance de recevoir Alexandre Ruiz, hein, qui a lui intégré à temps plein hein, le staff du MHR à Montpellier, est-ce que c'est une opportunité qui pourrait te séduire? On a le sentiment que les clubs ont de plus en plus d'appétence justement pour intégrer des arbitres ou à mi-temps ou à temps plein dans leur staff. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu te vois bien te diriger à l'issue de ta carrière internationale en juin?
Ben, il est évident, enfin, moi je suis quelqu'un qui prévoit et j'aime pas subir les événements. Ben, comme dans l'arbitrage, on prépare ses matchs, on prépare beaucoup de choses, même si on laisse le scénario se dérouler comme il doit se dérouler et permettre à la réalité de se dérouler. Mais moi, bien sûr que j'ai déjà anticipé parce que je ne voulais pas être mis devant le fait accompli. J'ai fait un coaching en 2013 avec une coach en entreprise qui m'a dirigé vers le management. J'ai repris mes études, j'ai fait un master et un bachelor. Et après, c'est évident qu'avec l'actualité, avec le développement justement des staffs, la volonté de s'offrir toutes les opportunités de préparer au mieux les joueurs, l'arbitrage prend sa place aujourd'hui. Donc, et c'est un axe de reconversion que je néglige pas et que je ne dois pas négliger. De toute façon, je ne suis pas en position de le négliger. J'ai d'autres opportunités qui sont en cours de réflexion. Mais bien évidemment que rester au service du rugby et dans un cadre comme celui-là, découvrir un nouvel univers, c'est quelque chose qu'il y a dans un coin de ma tête et auquel je pense, bien évidemment.
Avant de donner la parole à Raphaël sur cette thématique, on va se parler vrai. Il y a une rumeur, 3 clubs de top 14 qui veulent s'attacher aux services de Romain Pouat. Vrai ou faux?
Ça va vite.
Ça veut dire voilà. Que c'est vrai.
Non, enfin,
on ne les citera pas, mais la rumeur dit qu'il y a 3 clubs qui souhaiteraient s'attacher tes services, Romain.
C'est une rumeur.
Ça va très vite. Non, après, moi, comme j'ai dit par rapport à la petite précision que j'avais apportée dans un journal national, je veux garder ma liberté d'arbitre et surtout finir proprement ma carrière. Donc, pour l'instant.
Chaque chose en son temps.
Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas des échos, je ne dis pas qu'il n'y a pas des idées, des projections, etc. Bien évidemment que ça me revient aux oreilles, mais je vous assure. Je ne jure pas sur la tête de mes filles, mais je peux vous jurer que j'ai eu aucune proposition, aucune demande officielle pour intégrer un staff. Après, je sais qu'il y a des bruits. Tant mieux, parce que j'en suis très honoré et à la limite, ça me libère aussi d'une future reconversion ou du questionnement qui va avec une fin de carrière, comme certainement Raphaël, tu as dû connaître. Excuse-moi, Arnaud, je connais pas ton passif de joueur. Ah,
j'ai jamais dépassé la fédérale une.
Bon, mais voilà. Mais alors, on est tous les deux dans le même bateau. Mais non. Après, il y a eu aucun contact de noué. Et moi, comme j'ai dit et j'ai assuré encore à Franck ce matin, je veux finir propre parce que ça serait dommage de ternir ce qui a été fait pendant de si longues années. En négligeant quelque chose que j'ai vécu pleinement et pour lequel j'ai beaucoup de reconnaissance, c'est-à-dire l'arbitrage. Et pourquoi pas me donner les moyens d'aller jusqu'au bout à fin juin et amener tout le monde là où j'ai envie de les amener. Mais ça ne dépendra pas que de moi. Après, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Comme mon père aussi m'a toujours dit qu'il fallait avoir le choix, mais il faut aussi avoir les opportunités de ces choix. Donc, il faut aller chercher certaines. Donc, moi, j'ai besoin. Je peux revenir dans la police. D'ailleurs, j'ai eu rendez-vous il y a 15 jours avec la RH de la police toulousaine, donc pour voir les circonstances. J'ai aussi des projections par rapport à ce que j'ai fait à Toulouse Business School. Donc, il y a des opportunités. Et puis, il faut les laisser venir, mais tout en restant, comme on dit, focus sur l'essentiel. C'est-à-dire finir propre, le plus propre possible et avec respect.
C'est marrant parce qu'on reçoit un arbitre. Non, mais tu parles de souvent de la reconversion.
Je pose-moi la question juste après. Moi, j'imagine quand même le mec qui, à 25 ans, se prend un carton rouge par Romain Pouat et 10 ans plus tard, se fait arrêter par ce même Romain qui est redevenu flic et qui lui fout une amende et qui lui fait souffler dans le ballon.
Mais il descend, il me pose, il me met le nez parallèle aux yeux. Mais bon, non.
Ah, mais sur la reconversion, Raph, il y a beaucoup de similitudes. En fait, on parle souvent des joueurs. Il y a Dimitri Yajvili qui nous parlait de la petite mort, mais lui disait même que c'est une grande mort qu'il avait pris en pleine gueule. Finalement, la question se pose aussi même pour les arbitres. Raph, c'est quelque chose auquel tu es sensible.
Déjà, le changement de carrière, que même quand tu es à la retraite. Hein, moi, je l'étais à 25 ans, tu vas l'être à 45 ans. Mon père l'était à 60. C'est un changement de vie, en fait. Déjà, il est compliqué. Donc, tu as la petite mort de tout ce que tu as mis en place pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans une carrière normale, dans le rugby pendant 20 ans pro, et pour ton cas, en tout cas, Romain, pendant 15 ans. Donc, tu changes, c'est le rapport au corps, aux émotions, qu'est-ce que je fais de ma tête, quelles sont mes compétences dans le monde de l'entreprise, et ce qui est bien, et pourquoi c'est exemplaire encore, Romain, et ce n'est pas pour t'envoyer les fleurs, mais qu'à 45 ans, dans un moment qui est délicat, où tu dois te remettre en question, alors que tu es encore en forme, ben, tu montres aussi à la jeunesse que oui, il faut se poser des questions. Oui, tu as fait une formation en 2013. Oui, tu as des opportunités, mais il faut aussi aller se les peler et aller les chercher. Et c'est pour ça que c'est bien de le dire dans ce podcast, parce que ça, je pense que ça peut aussi influencer la nouvelle génération et aussi ceux qui vont s'arrêter à bien réfléchir à l'après-carrière, parce qu'on le sait que c'est compliqué. Mais si elle est anticipée, elle est beaucoup plus agréable à vivre que ce que moi j'ai vécu ou beaucoup vivent aussi par manque d'anticipation.
C'est exactement ça, Raphaël, c'est que ça se vit bien, ça se vit mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments difficiles, hein. On se pose des questions, etc. Mais se donner les moyens de ses ambitions, déjà, c'est essentiel. Et tous tes propos, ils vont dans un sens qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes arbitres arrivent pour être professionnels dans l'arbitrage. On est 3500, aujourd'hui, il n'y en a que 3. Alors après, je souhaite qu'il y en ait, il y en ait plus, que tous puissent y accéder, et je leur souhaite. Mais je dis aux jeunes, c'est important d'abord de vous construire. Et ça, c'est l'avantage qu'on a, nous, par rapport à vous, les joueurs, c'est qu'on vient du milieu professionnel, on a eu une expérience professionnelle avant de venir au professionnalisme de l'arbitrage dans une vie, que ce soit privée ou dans une collectivité privée ou une collectivité publique. Donc, on a déjà fondé des familles, on a pour la plupart. Donc, il y a une certaine expérience de la vie qui garantit rien du tout de supérieur par rapport aux autres. Mais déjà, ce sont des critères qui font qu'on a un peu plus d'assurance et d'équilibre dans le choix de partir après dans le professionnalisme. Parce que, bon, comme moi, eh bien, j'en remercie la police, je peux revenir dans la police. Après, 15 ans en ayant quitté la police et la loi, j'ai du mal à me projeter, évidemment, dans un métier de policier. Et puis, ça serait dommage d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Je le dis toujours en rigolant, mais c'est vrai que quand tu vois un policier, que tu sois victime ou mise en cause, tu n'es pas très content de le voir. Victime parce qu'il n'a peut-être pas fait son travail et qu'on t'a pris quelque chose. Mise en cause, ben, c'est que tu vas partir peut-être pour des endroits, pas des hôtels 4 étoiles, mais bon, des moments difficiles à vivre. L'arbitre, c'était un petit peu ça. Et comme je dis, maintenant, j'ai juste envie d'avoir des bonnes relations avec les gens, entretenir des bonnes relations, parce que moi, je n'ai pas ramassé. Je veux dire, je fais mon calimero, mais rassurez-vous, c'est une belle vie et une belle vie à vivre. Mais à partir du moment où tu as ce recul-là, et ça, c'est peut-être le temps et l'expérience qui nous permet, moi, j'ai repris mes études à 40 ans parce que voilà, je me disais, c'est quand même dommage d'avoir fait tout ce que j'ai fait, d'avoir eu un petit peu de temps parce que, qu'on soit joueur ou arbitre professionnel de rugby, on a quand même un petit peu de temps pour se former, pour évoluer, etc. Et ce n'est pas simplement sur l'image qu'on va laisser qu'on pourra prétendre avoir un métier qui nous plaise ou alors qui nous revient de droit. Mais donc moi, j'avais eu cette conscience-là auparavant et ça m'a permis d'aborder cette fin de carrière avec plus d'assurance et moins de questionnement. Donc, c'est complètement vrai ce que vous avez dit et c'est très important. Alors, qu'on se construise avant une carrière, bon, pour les arbitres, c'est plus vrai que pour les joueurs, puisque maintenant, à 15-16 ans, on commence à déjà les enrôler dans des promesses ou alors des vies de professionnels. Mais c'est justement le projet que j'ai essayé de porter, parce que je fais partie du comité exécutif de la Fondation de Toulouse Business School. Et c'est justement ça, dans la reconversion du sportif de haut niveau, on essaie de porter un projet aussi sur le handicap et justement de mettre en place des passerelles qui font que tous ces étudiants qui ne se connaissent pas encore aurait des opportunités de sortir avec des diplômes d'une certaine valeur dans le monde professionnel et qui seraient reconnus. Et c'est exactement la réflexion que je m'étais faite quand j'avais partagé à Toulouse Business School la formation avec les joueurs de Proval, puisque moi, j'avais demandé à la faire parce que bon, je connais la notoriété de Toulouse Business School. Et puis, ça me permettait aussi d'avoir d'autres relations avec les joueurs, sortir d'un contexte et d'avoir des relations différentes et puis de laisser aux joueurs le loisir de me découvrir en tant qu'homme, parce que toujours derrière le costume, mais derrière le costume de profession, il y a toujours un homme. Et donc voilà, donc j'avais été frappé aussi par le fait qu'on vienne très tard quand on est joueur à la reconversion, qu'on ait ce sentiment qui doit être présent. Parce que moi, je vais vous dire simplement, j'ai gardé mon salaire de… Alors, je ne veux pas être insultant, je veux être juste amusant, mais de pinot simple flic. Et tout le reste, parce que je ne voulais pas justement me pervertir en pensant que ben, tout le reste, je l'ai épargné ou ce que vous voulez, mais ça ne regarde pas les gens. Mais je veux dire, il y a eu toujours ce questionnement, qu'est-ce qui se passe s'il y a une grosse blessure, qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête du jour au lendemain. Donc, se prémunir ben, de subir quelque chose qu'on ne veut pas subir. Donc voilà. Le tout fait que il y a une prise de conscience, mais c'est un petit peu comme le vin, quoi. En vieillissant, on devient un peu plus intelligent et un peu plus agréable. Donc voilà, il faut avancer dans la vie, mais s'il y a des messages qui peuvent se passer très tôt et qui peuvent être entendus quand on a 20 ans, alors c'est vrai qu'on dit toujours ouais, ces vieux cons, ils nous font chier avec leur raisonnement parce que ça n'a pas d'histoire et ça n'a pas de réalité dans notre génération, mais c'est juste la réalité de la chose. Et puis on a traversé la vie avec quelques années supplémentaires. Ou du, on dirait un professeur ou un druide qui parle à des…
Non, mais il y a beaucoup de vrai. Hein. Il y a un proverbe africain qui dit que quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais je crois que c'est le genre de proverbe assez juste. Romain, pour conclure de façon beaucoup plus légère, deux petites questions très rapides parce qu'on a été très long. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as été policier, tu as commencé, je crois, même dans le quartier du Mirail. C'est quoi le plus difficile ? Être flic dans le quartier du Mirail ou arbitrer Richie Macko ?
Ouais, franchement, c'est être flic. C'est un privilège d'être au milieu et puis d'arbitrer. Parce que tous ces joueurs-là, ils vous challengent et ils vous amènent un peu plus d'excitation, un peu plus de réflexion, un peu plus d'analyse. Ils vous poussent dans vos retranchements. C'est qu'après qu'on le ressent. Mais franchement, c'est plus dur d'être policier. Et j'ai une pensée pour tous mes anciens collègues parce que franchement, ce n'est pas un métier qui est facile aujourd'hui.
Et qui n'est pas valorisé.
Qui est impopulaire, qui n'est pas valorisé parce que pour plein de choses, et on ne va pas en débattre parce que tu m'as dit de faire court, que je peux être très bavard.
Mais, je suis tombé sur deux bavards.
J'ai trouvé mon maître.
Non. Et je parle tellement peu que quand on me laisse la parole…
c'est exactement l'endroit où il fallait que tu sois aujourd'hui.
Alors, assurément un joueur difficile, ça reste un privilège à diriger. Et le métier de policier est bien plus difficile que le métier d'arbitre.
Allez, et une dernière question, puisqu'on a fait les demi-temps, on va parler de la troisième. Avec Raph, on sait ce que ça vaut une troisième mi-temps, même à petit niveau, en Fédéral 2, Fédéral 1. Raph l'a connu au plus haut niveau, mais toi, en tant qu'arbitre, c'est quoi un arbitre en troisième mi-temps ?
Mais c'est un mec qui ne peut pas s'exposer, mais je peux vous dire qu'il se rince bien la tronche et qui s'éclate comme les autres. Parce que comme je vous ai dit, derrière une fonction, il y a toujours un costume, il y a toujours un masque. Mais après, on est les premiers à déconner, on est les premiers. Moi, je suis épicurien à la table, j'adore ça. Boire du vin, n'en parlons pas. Et puis les plaisirs de la vie, parce que des fois on se dit que ça peut s'arrêter du jour au lendemain quand on voit les gens qu'on côtoie, ils tombent à la retraite et puis boum, il y a la maladie du siècle qui leur tombe dessus et après on vous dit putain, mais ce mec il profitait pas, ben alors voilà, on profite, on se prend des bons caramels. On a mal à la tête comme les autres le lendemain quand on est content de nous et qu'on n'a pas fait parler de nous. Et ça reste une communauté pas sectaire, mais très humaine. Donc
est-ce que vous avez partagé et l'un et l'autre déjà des troisièmes mi-temps, justement, joueur-arbitre ?
C'était ma conclusion, tu me devances en fait.
Les grands esprits se rencontrent, Raph.
Mais non, mais c'est vrai, c'est que tu ne peux pas partager avec les arbitres parce qu'il y a une distance, comme on veut mettre de la distance entre le manager et les joueurs. Je trouve ça complètement… Pas débile, mais aujourd'hui, les joueurs sont responsables. Mais oui, c'est vrai que ça manque. Et c'est pour ça que je voulais dire, voilà, le soir de la finale de Top 14, quand tu seras avec ton petit drapeau, je m'en fous, je paye ma place. et je viens et je te jure que j'ai envahi le terrain et je viens te voir et je dis putain, tu l'as fait. Et voilà, et je ramène le. Alors, nous, ce n'était pas en Picardie.
On sûr, rendez-vous, le rendez-vous est pris, fais gaffe.
Je te promets que je le fais.
Alors, et nous, on la boit sur le terrain, la bière.
On la boit sur le terrain avec grand plaisir. Et juste pour l'anecdote, moi, je n'ai pas de drapeau. On n'a pas de drapeau en Picardie. On a une espèce de peluche toute dégueulasse qui s'appelle Paul Latouche. Et bien, moi, si tu es sur le terrain, arbitre de top 14 pour la finale de cette année, je viens avec un Paul Latouche et on trinque sur le terrain et on le fait. Et on se prend en photo.
Et même, tu me le fais passer avant. Et même, moi, je rentre avec le Paul Latouche et je le pose au bord du pilier, si tu veux.
Écoute, ça va. Et tu sais
toujours quoi, challenger les joueurs. Moi, j'ai toujours aimé challenger les joueurs. Et juste pour. Pardon, je te coupe, Raphaël.
Je t'en prie.
Mais on a tellement partagé avec certains joueurs les journées des ambassadeurs de la Ligue que tu as dû faire aussi, Raphaël.
Aussi, ouais.
Et c'est tellement marrant de se mettre des challenges et des trucs, bien sûr, que personne ne sait. Mais après, on en rigole et ça construit les relations du rugby dans les meilleures conditions.
Le dernier challenge, il est pour Antoine Burban, référence au match de samedi, sur la constitution du môle, si j'ai bien compris. Il faut qu'il apprenne la règle d'ici mercredi.
Mais j'en ai tiré des enseignements. Moi, je ne me suis trouvé pas très bon dans la com et très réducteur. Mais en plus, Antoine, c'est quelqu'un que j'arbitre depuis très longtemps et que j'apprécie énormément. Et non, je saurais lui expliquer. Mais comme je disais, on ne peut pas faire de l'éducatif en live. Mais
à chaque fois.
J'en ferai avec plaisir mercredi et le mercredi suivant, s'ils veulent.
Non, mais c'était une petite séquence sympa pour conclure. Messieurs, merci beaucoup. On a été très, très long, mais c'était très riche, très intéressant. Et si ça peut donner l'envie à tous les jeunes qui nous écoutent de se diriger vers le sifflet, je crois que Franck Massiello appréciera de voir des vocations naître en écoutant ce podcast. Poulain Rafut, c'est fini. Merci, messieurs, pour cet échange très riche. Et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt.
Merci. Merci à toi, Romain, bye bye. D'avoir humanisé justement le rôle d'arbitre. Ça fait du bien et rendez-vous pour cette fameuse finale. Je te le souhaite, je me le souhaite, on trinquera. À la semaine prochaine, salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.